Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes le 26 avril, le journal Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Traitement, la nouvelle piste qui intéresse les chercheurs, l'ivermectine. Cet antiparasitaire pourrait protéger contre la nicotine, mais sans les effets pervers. Explication dans quelques instants. Réouverture des écoles le 11 mai, la grande réserve du conseil scientifique qui aurait voulu une ouverture en septembre, aux enseignants très inquiets, vous l'entendrez. J'aime mon bistrot, les précommandes pour soutenir café et restaurant en souffrance. Nous irons dans ce journal en Israël qui desserre encore l'étau et nous verrons comment on vit le confinement dans un village perché à près de 1000 mètres dans les Pyrénées.
Les invités de la matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Julia Kristeva, psychanalyste et écrivaine, avec elle nous parlerons du Covid-19 et de Dostoïevski.
Et puis à partir de 8h20, question ce matin sur l'hypothèse d'une deuxième vague qui arrive avec deux points de vue différents, celui de la docteure Anne Goffard, virologue au CHRU de Lille et à l'Institut Pasteur de Lille. Elle estime que la deuxième vague est inéluctable, mais ce n'est pas l'avis du professeur Jean-François Toussaint. Lui est physiologiste et directeur à l'IRMES. Eh bien, posez vous aussi vos questions à nos deux invités. Le standard est ouvert dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Alors, pas encore de traitement, Bernadette, mais une nouvelle piste qui pourrait se révéler intéressante.
Alors, prudence, bien sûr, en la matière, tant ce virus nous a appris à rester humbles. Mais parmi toutes les pistes suivies par les chercheurs, et elles sont nombreuses en ce moment, il y a donc celle de l'ivermectine. Là encore, comme l'hydroxychloroquine, c'est un antiparasitaire bien connu, mais les chercheurs s'intéressent à lui, car elle fonctionnerait un peu comme la nicotine, et surtout, Véronique Julia, il n'aurait pas, bien sûr, ses effets pervers.
La nicotine est une première piste qui demande évidemment à être documentée, mais c'est une substance addictive. Quand bien même elle serait efficace, difficile d'imaginer rendre dépendants 70 millions de Français pour les protéger du Covid. L'équipe de la Pitié-Salpêtrière qui travaille sur cette piste de la nicotine en est consciente. Elle s'intéresse donc parallèlement à l'antiparasitaire ivermectine, un vieux médicament bien connu qui agirait sur les mêmes récepteurs que la nicotine et pourrait donc empêcher de la même façon le virus de proliférer. Un médicament sur lequel travaille également à Montpellier l'entreprise Médincel. Son président Christophe Doit estime la piste encourageante.
Une étude, pas clinique, mais en tout cas observatoire sur quand même 1500 patients a montré que le taux de mortalité passait de 8 à 1% sur les patients traités à l'ivermectine. C'est une étude de l'université de l'Utah et certains des collaborateurs sont aussi le Brigham and Women's Hospital de Harvard, donc des très jolis noms.
L'entreprise est plutôt sur la piste d'une injection longue durée d'ivermectine qui agirait comme une prophylaxie, une solution préventive comme la PrEP dans le VIH pour éviter de tomber malade. Une hypothèse de travail pour l'instant avec beaucoup d'étapes encore avant de la valider ou pas.
Véronique Julia. Et puis une autre piste, et là encore, c'est un traitement bien connu, le bon vieux BCG, vaccin contre la tuberculose. Plusieurs essais en ce moment dans plusieurs pays. La France devrait en commencer un la semaine prochaine. Une course contre la montre qui est engagée alors que l'OMS suscite l'inquiétude sur l'immunité. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes guéries après avoir été atteintes soient suffisamment prémunies contre une deuxième infection. Dans le doute, les passeports immunitaires, ces laissez-passer que plusieurs pays veulent mettre en place pour lever le confinement, serait même une idée dangereuse selon l'OMS.
Quant à la perspective de lever le confinement, eh bien, le calendrier, les conditions, on saura tout cela, on en saura un peu plus dans deux jours.
Oui, c'est mardi à 15h que le Premier ministre présentera devant l'Assemblée nationale son plan de l'après-mai, présentation suivie d'un débat et d'un vote, un plan en 6 points, santé, école, travail, commerce, transport, rassemblement. On saura alors les grandes lignes car les détails seront affinés ensuite avec les élus locaux. Tous ces points, on le sait, sont extrêmement complexes, mais le premier à gérer, ce sera l'école. Réouverture progressive à partir du 11 mai, ce que n'approuve pas le conseil scientifique qui le dit clairement, c'est une décision politique. Les experts étaient pour une ouverture en septembre. Quoi qu'il en soit, ils prennent acte, ils multiplient les recommandations. Masque obligatoire au collège, repas pris en classe si la distance sociale est difficile à la cantine. Et cette école, en tous les cas, elle n'aura rien à voir avec ce qu'on a connu, estime ce directeur d'établissement. Écoutez.
Il va falloir réinventer les cours de récréation. Les rangs 2x2, il faut les oublier. Donc effectivement, encore une fois, moi je suis sur l'idée de réinventer l'école. Il faut réinventer l'école, mais dans des conditions sanitaires strictes et respectées. C'est pas forcément des plus simples. Si on n'est pas capable de veiller à ce que les protocoles soient clairement définis et respectés dans chaque établissement, là, il vaut mieux pas ouvrir.
Joint par Mathieu Mondeleni, Olivier Flippot, directeur d'une école dans le Val d'Oise. La réserve est forte aussi du côté de l'opposition, à droite comme à gauche d'ailleurs. On estime prématurée cette date du 11 mai pour les écoles. En revanche, pour les cafés et restaurants, on pourrait rouvrir à cette date, en tous les cas dans les régions peu touchées par le virus. Pour les cafés donc et les restaurants, c'est ce qu'estime la droite. La profession qui met en ligne J'aime mon bistrot, une plateforme où la solidarité par la précommande. Explications et réactions à Nîmes, Sylvie Duchesne.
Florian Lelosc est l'un des premiers à avoir adhéré à la plateforme à Nîmes. C'est le patron de l'Instant T, un bar à bière du centre-ville. Ses 15 salariés sont au chômage partiel.
Ces précommandes solidaires qui sont payées tout de suite et consommées à la réouverture vont nous apporter un petit peu de trésorerie, ce qui va nous aider à tenir jusqu'à la réouverture et nous permettre de payer en partie nos charges, puisque malgré les aides en place, nous avons encore beaucoup de charges à payer et plus du tout d'argent qui rentre depuis maintenant 5 semaines.
Un apport de trésorerie rapide, répond Brigitte Dumas à la tête avec son mari de la brasserie de Montcalm, mais c'est reculer pour mieux sauter.
Certes, lorsque nous allons rouvrir l'établissement, le public qui a payé va pouvoir venir manger, consommer, mais nous aurons déjà encaissé l'argent et cet argent ne sera déjà plus là. Donc il va falloir racheter de la marchandise pour pouvoir servir ses clients et nous n'encaisserons pas de recettes à ce moment-là.
Ne reste plus que les aides de l'État. Florian, lui, s'est remis au travail grâce à la vente en ligne que permet la plateforme.
Et les bons d'achat donc à trouver sur cette plateforme sont valables jusqu'à la fin de l'année 2020. Nous allons maintenant en Israël. Israël où de nouvelles restrictions sont levées à partir d'aujourd'hui avec 200 morts sur 8,5 millions d'habitants. Le pays estime avoir réussi son confinement et desserre donc l'étau très progressivement. Frédéric Mettezou.
Depuis une semaine, les salariés en télétravail ont commencé à revenir au bureau, notamment dans les hautes technologies et le numérique, et le port du masque est obligatoire sous peine d'une amende de 50 euros. Aujourd'hui, les boutiques peuvent rouvrir, mais pas les centres commerciaux, et à condition de garantir les distances dans les locaux, de bien désinfecter, d'organiser les files d'attente, et si possible, de prendre la température des clients à l'entrée. Dans les salons de coiffure et de beauté, les professionnels devront porter des masques et des gants, les restaurants peuvent aussi reprendre, mais uniquement pour des plats à emporter. Le gouvernement israélien veut rouvrir les écoles dans une semaine si l'épidémie ne repart pas à la hausse. Les célébrations du Ramadan sont donc très encadrées et certains quartiers ultra-orthodoxes juifs sont de nouveau bouclés par la police car le nombre de cas continue d'y augmenter. Les services de sécurité s'inquiètent aussi de mouvements sociaux à cause du ras-le-bol et des difficultés économiques. Le chômage a explosé, 3,5% avant l'épidémie, 25% aujourd'hui. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Enfermé au grand air, comment vit-on le confinement à près de 1000 mètres d'altitude? Reportage de Sébastien Baer à Aïdius, c'est un village dans les Pyrénées, dans la vallée d'Aspe.
Au pied du pic de Bergon, qui culmine à 2148 mètres, Aïdius et ses champs en étage sont depuis longtemps habitués à la vie en autarcie. Ici, les habitants, ils sont 112, vivent le confinement sans angoisse, à commencer par la doyenne, Gilberte, 91 ans.
Faut pas se plaindre, pas se regarder, moi je suis dehors. J'ai la vue sur la montagne. Quand vous êtes dans 20 mètres carrés, avec juste une fenêtre et puis la vue sur des murs et des toits, ça doit être épouvantable.
Gilberte peut compter sur la solidarité des habitants qui descendent dans la vallée pour lui faire quelques courses. Depuis le confinement, le village s'est organisé. Contraint à la fermeture, Alexandre, le patron de l'auberge d'Aïdius, a transformé son établissement en épicerie.
On vend des légumes et des produits de première nécessité pour les villageois pour éviter de descendre, surtout avec le confinement, avec le stress que les gens ont de se mélanger dans des centres commerciaux.
Mais l'isolement complique parfois les choses. Dans sa maison, qui offre une vue imprenable sur la montagne, Isabelle est désormais en télétravail. Cette secrétaire médicale a basculé sa ligne professionnelle vers son portable. Mais mais c'était sans compter les coupures du réseau de téléphonie mobile.
Si une personne appelle, c'est une urgence, une personne qui se sent pas bien ou en détresse respiratoire, hein, c'est arrivé, ça peut vite tourner à la catastrophe.
Depuis le confinement, les volets des résidences secondaires sont restés clos à Idius. Aucun citadin n'a trouvé refuge dans ce village du bout du monde où la route s'arrête pour laisser la place aux sentiers de randonnée.
Voilà, le confinage au bout du monde, donc, et pourquoi pas dans ce village. C'était le journal de Bernadette Chamonaz.